Le 21 mars 2022, les élèves de la classe MRC2 du lycée professionnel du Mirail ont interviewé Philippe Le Bailly de l'association Nature au Pradette. Ce projet en éducation aux médias et à l'information a été réalisé avec le soutien de la DRAC Occitanie par la Ligue de l'enseignement 31 et Médias communs Occitanie.
Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Philippe Le Bailly, association Nature Pradette.
Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît.
Donc bonjour, je m'appelle Philippe Le Bailly et j'habite le quartier des Pradettes et je suis engagé sur plusieurs projets sur le quartier.
Dans quelle association travaillez-vous ?
Je ne suis pas salarié, je suis bénévole, donc je suis dans une association qui s'appelle Nature Pradette. En nature, ça veut dire nouvelle agriculture en territoire urbain pour le rassemblement et l'émancipation solidaire. Donc, c'est un grand sigle. Et c'est une association qui a été créée il y a 2 ans et qui est née d'un projet qui s'est développé dans le quartier il y a 3 ans.
Il y a combien de membres dans votre association ?
Il y a une centaine de membres adhérents et puis il y a 140 personnes qui sont inscrites sur une liste pour avoir régulièrement des informations pour soutenir le projet, mais qui n'ont pas pris une adhésion. Et dans l'association, dans la centaine d'adhérents, il y en a à peu près la moitié qui sont des membres actifs, ça veut dire des gens qui consacrent du temps pour mettre en œuvre le projet de l'association.
C'est quoi d'être bénévole ?
Alors, dans des associations, on peut avoir des personnes qui ont dit bénévoles, donc je vais expliquer, ou des personnes qui peuvent être salariées, donc ça vous connaissez. On est embauché pour faire un travail et puis on est payé pour faire le travail. Et puis aussi, dans les associations, on a aussi des gens qui sont des volontaires, ça peut être des services civiques. Alors, quelqu'un de bénévole, c'est quelqu'un qui fait une activité qui peut des fois ressembler à ce que pourrait faire un salarié, mais il le fait sans rémunération. Il le fait parce qu'il soutient ce projet-là, il trouve que cette activité, ça l'intéresse, et il propose donc de le faire gratuitement. Donc, si vous allez, par exemple, dans des clubs sportifs, il y a des fois des encadrants, des éducateurs, des éducatrices sportives qui peuvent être rémunérés, mais la majorité souvent des encadrants, des éducateurs dans les clubs sportifs sont des personnes qui le font bénévolement, c'est-à-dire gratuitement. Si vous connaissez les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la majorité des associations fonctionnent avec des personnes qui le font bénévolement, donc gratuitement. Et les volontaires, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. C'est des gens qui peuvent avoir une indemnité, par exemple des gens qui sont en service civique, mais c'est beaucoup moins que si c'était un salaire. Et ils le font parce qu'ils ont envie d'apporter leur aide sur un projet qu'ils trouvent important. Et que c'est aussi pour ces personnes-là aussi une occasion d'apprendre, de découvrir et d'être utile. Enfin, leur motivation première n'est pas d'avoir un salaire, une rémunération. Mais pour vivre quand même, parce que ça leur prend du temps, ils ont un peu une indemnité, comme si c'était une bourse pour des étudiants, pour au moins vivre dessus. Donc on a 3 catégories, des salariés, des bénévoles, où c'est complètement gratuit, et des volontaires qui sont un peu à l'intermédiaire dessus. Et les volontaires, en général, ils le font un an, mais ils ne le font pas sur de longues durées. Alors qu'un bénévole, il peut le faire tout au long de sa vie. Alors, est-ce que tu connais, par exemple, les restaurants du cœur ? Tu as entendu parler ? Bon, dans les restaurants du cœur, il y a des personnes qui viennent chercher du soutien alimentaire, ils viennent chercher des aliments, puis il y en a d'autres qui s'occupent de la distribution, qui vont récupérer des aliments dans des magasins ou ailleurs, après qu'ils viennent les emmener sur un lieu de distribution et puis qu'ils les distribuent aux gens qui viennent. Les gens qui font ça, ils le font gratuitement, c'est-à-dire ils ne sont pas payés pour le faire. Donc c'est ça qu'on appelle bénévole, c'est on fait des activités, on rend des services, mais ça peut être, je ne sais pas, moi j'aime bien, je trouve que c'est important qu'il y ait un club de football dans mon quartier, par exemple, pour encadrer les enfants qui viennent s'entraîner. Moi je sais bien jouer au football, bah, je décide de les entraîner gratuitement. Et donc, il y a des entraîneurs de foot qui le font gratuitement. Donc, c'est ça, bénévole. C'est quand on encadre, on fait des activités pour d'autres, mais on le fait gratuitement. Enfin, on ne cherche pas un salaire. Et donc, il y a plein de clubs qui fonctionnent majoritairement grâce à l'action, à l'activité de bénévoles. Si demain, tous les bénévoles sortaient du secours populaire, des Restos du Cœur, du club de foot, de toutes ces structures-là, eh ben, toutes ces activités-là, elles disparaîtraient. Demain, si vous connaissez des gens qui sont, je sais pas, dans un club sportif, vous leur demandez, il y a combien de personnes salariées et combien de personnes bénévoles? Ben, ils vont vous dire peut-être un salarié et 20 bénévoles. Si les 20 bénévoles partent, ben le club, il ferme, il peut pas vivre. Et dans les motivations des gens qui le font gratuitement, soit c'est des motivations un peu solidaires, des gens qui ont envie d'être solidaires, soit parce que c'est des gens qui aiment bien l'activité, par exemple, j'aime bien une activité sportive, je suis passionné de ça, et puis j'ai envie de la partager et que d'autres l'apprennent, ben je le fais pour parce que j'aime bien cette activité-là. Et puis il y en a d'autres, c'est on le fait comme le secours populaire, on le fait parce qu'on a envie d'être solidaire.
Quel est le but de l'association ?
Donc, le but de l'association, c'est de créer sur le quartier des Pradettes une ferme maraîchère, donc une ferme qui produirait des légumes de qualité, des légumes bio pour les habitants du quartier. Donc, avec cette partie de la ferme qui serait, tenue par des professionnels, des maraîchers où ce serait leur métier, qui vivraient de leur activité de production de légumes. Un jardin pédagogique pour les enfants du quartier de façon à les sensibiliser comment ça pousse des légumes, des fruits, c'est quoi des légumes de saison, et puis c'est quoi la biodiversité. On entend beaucoup parler aujourd'hui de protéger l'environnement, la biodiversité, protéger le climat. Ben, dans le jardin-là, de faire des activités pour que les enfants du quartier soient sensibilisés sur ces questions-là. Et puis un troisième espace, qui est un jardin partagé pour les adultes, pour les habitants adultes du quartier, qui viennent collectivement cultiver des légumes pour eux. Donc, on voudrait que sur un terrain qui est au centre du quartier des Pradettes, c'est un terrain qui appartient à la mairie, ce terrain-là, il est entouré d'immeubles. Et donc, les habitants de ce quartier-là, de cette zone-là, cet espace-là, c'est le seul espace vert qu'ils ont. Donc, on dit faut le garder en espace vert parce que l'été, les gens, ils vont dehors, ils se mettent à l'ombre. Et puis, ça rafraîchit quand il fait très chaud. La nuit, ce terrain-là, il permet de rafraîchir la zone. Donc, c'est important pour les habitants. Et on dit, on veut plus d'immeubles sur cette partie-là. On veut que ça reste un espace vert et puis que ça soit par contre utile pour les habitants, donc avec des jardins et une ferme maraîchère qui produisent des légumes. Donc ça, c'est notre projet depuis 3 ans où on essaye de convaincre la mairie d'abandonner son projet de construire encore des logements ici et à la place d'aménager une ferme maraîchère et des jardins.
Quelle taille fait le terrain ?
Donc là où on projette le terrain, ça fait 20 000 mètres carrés. Par rapport à un terrain de foot, ça doit faire l'équivalent de 5 terrains de foot dessus. Donc c'est au milieu du terrain. Alors c'est à la fois grand pour permettre de faire ces installations-là, mais c'est à la fois petit, 20 000 mètres carrés. Et sur ces 20 000 mètres carrés, il y a déjà des choses qu'on a accepté que la mairie construise. Donc ils vont construire un logement qui s'appelle une résidence intergénérationnel, où il y aura 80 logements. Là, c'est pour accueillir des habitants de tout âge, des jeunes ou des moins jeunes. Et puis, il y aura une partie collective. Donc voilà, ça, c'est bien parce que c'est une résidence où il y a toute catégorie de personnes. Donc ça fait mix et c'est bien pour tout le monde. Puis il y a des parties collectives pour que les habitants vivent des activités. Donc ça, on a accepté ça. Donc ça vient prendre une partie de cette surface-là. On a demandé depuis des années, parce qu'on n'a pas de centre culturel sur le quartier, alors qu'il y a beaucoup d'associations qui font des spectacles culturels, soit de danse, soit de musique. Par exemple, tous les 2 ans, il y a une association qui fait un festival de musique de femmes. Parce que dans les festivals, souvent, les femmes, elles sont moins invitées que les hommes dans les artistes. Donc là, il y a une association qui, tous les 2 ans, fait un festival et il se déroule sur la place du quartier. Mais on dit, faut louer un chapiteau, etc. On dit, ça aurait été bien qu'on ait une salle culturelle pour que le festival puisse accueillir dans les mêmes conditions. On a réussi à convaincre enfin la mairie de le faire, mais elle le fait une petite salle culturelle. Elle appelle ça pas une salle culturelle comme dans les quartiers, comme en ville. En ville, on dit c'est des salles culturelles. Là, elle nous dit c'est une salle socio-culturelle parce qu'il faut faire du social vu que vous êtes un quartier populaire. Donc on dit mais non, nous on veut à la fois des équipements sociaux pour les gens qui ont des difficultés, qui puissent avoir de l'aide. Mais on veut aussi, comme dans d'autres quartiers, nous avoir une vraie salle de spectacle culturel avec une vraie scène. Et donc, on n'aura pas d'estrade. Donc, quand on aura besoin de mettre un spectacle sur estrade, il faudra qu'on demande qu'on vienne nous installer une estrade. Donc, sur ce terrain-là, donc, il y a la salle culturelle quand même, qu'on a obtenue, cette résidence qui va accueillir plusieurs catégories d'habitants, et ça, c'est bien que ça soit mixte. Et puis, le reste, on veut que ça reste là pour la ferme et les jardins.
Quelles actions menez-vous ?
Alors, on mène plusieurs types d'actions. On met des actions qu'on appelle de sensibilisation, c'est-à-dire d'information. On fait des événements, on tient des stands. On a fait un grand village où on avait invité plein de stands, de structures, d'organismes qui font des choses pour l'agriculture, pour l'alimentation. C'était en septembre 2020, donc on a eu une quarantaine de stands sur la place du quartier, puis plein de visiteurs. Donc ça, c'est pour faire connaître le projet. Après, on a mis en place une action qu'on appelle panier alimentaire solidaire. Parce qu'on se dit, si on arrive à installer une ferme maraîchère et que les maraîchers ils produisent des légumes bio, on sait que des fois, les légumes de qualité, quand on ne fait pas de façon industrielle, mais qu'on fait des choses de meilleure qualité, bah, ça coûte un peu plus cher que quand on fait les choses de moins bonne qualité en grande quantité. On sait que dans le quartier, y a des gens qui ont des revenus importants, puis il y en a d'autres qui ont des revenus moins importants. Et on disait, c'est pas possible que si on a une ferme dans le quartier qui fait des légumes de qualité, que tout le monde puisse pas les acheter. Donc, on a eu l'idée d'un dispositif solidaire. Donc, toutes les semaines, on distribue des légumes qui ont été fabriqués par des fermes maraîchères autour de Toulouse, qui sont des légumes de qualité. Et les gens qui produisent le panier, ça leur coûte 11 euros du coût de production pour se payer eux. Donc, on dit, c'est pas à eux de réduire les coûts parce qu'ils pourraient pas en vivre. Donc, ce qu'on fait, on demande à des habitants du quartier qui ont des revenus plus importants de payer plus que 11 euros. Et pour des habitants du quartier qui ont des revenus moins importants, enfin soit parce qu'ils sont chômage, soit parce qu'ils sont étudiants, ils peuvent acheter le panier à partir de 3,50 euros. Donc le coût réel du panier, c'est 11 euros. Donc on a des gens qui l'achètent à partir de 3,50 euros et les autres payent plus que 11 euros. Et on dit comme ça, avec le plus, ça permet que certains puissent y accéder. Et donc là, on a lancé ça depuis le mois de septembre l'année dernière. Et on arrive à quelque chose de solidaire qui fonctionne dessus. Et puis, troisième action qu'on avait réussi à obtenir, mais il a fallu encore se battre auprès de la mairie, c'est on disait le jardin pédagogique, c'est une petite surface. Est-ce qu'on peut commencer à le tester dans le quartier sans attendre que vous preniez une décision sur la totalité du projet ? Donc, au bout de plusieurs mois, la mairie a accepté, en fin d'année l'année dernière, de nous donner une petite surface qu'à côté du centre d'animation. Là, votre camarade de classe, il disait, là, à côté du centre d'animation, il y a le hibou du pavé. Eh ben, sur ce petit terrain, donc ça fait 500 mètres carrés, il y a des parcelles cultivées pour les écoles où il y a déjà 14 écoles du quartier qui sont intéressées et qui viennent avec leurs enfants pour jardiner. Et ça, pour commencer à montrer que ça intéresse dans le quartier.
Pourquoi êtes-vous situé au Pradette ?
L'association, elle est située au Pradette parce que les membres qui l'ont créée sont des habitants du quartier des Pradettes et ils l'ont créée pour mener un projet sur le quartier des Pradettes. Après, on a des contacts avec plein d'autres associations qui sont en dehors du quartier des Pradettes.
Parlez-nous du projet de ferme urbaine sur le terrain de Bordeaux-Blanche.
Ce projet-là, je vous disais tout à l'heure, donc il a trois aspects, donc à la fois l'aménagement d'une ferme maraîchère, l'installation de jardins collectifs pour les habitants adultes et puis d'un jardin pédagogique là, pour les enfants, les structures éducatives. Donc il y a des crèches, des haltes garderies, des écoles primaires maternelles, le collège. Enfin, il y a plein de structures qui viennent déjà sur le jardin pour faire des activités de jardinage, être sensibilisés. Il y a des hôtels à insectes, des abris pour les oiseaux. Donc ils viennent pour découvrir soit comment ça pousse, les légumes, les fleurs, les plantes, et être sensibilisés sur comment on peut protéger la nature, l'environnement.
Comment est venue l'idée de ces espaces ?
Alors, il y a trois ans, la mairie de Toulouse, comme d'autres mairies en France ou d'autres organismes, ils font ce qu'ils appellent ça des budgets participatifs. Peut-être vous avez vu, c'est la mairie vous dit, on vous invite, les habitants, si vous avez des idées, à les soumettre. Et puis, celles qui semblent possibles, on va demander aux habitants de Toulouse de voter pour si cette idée-là leur semble intéressante. Et donc, il y a trois ans, la mairie avait fait ce budget participatif. Ils appellent ça parce qu'on participe, les habitants. Et il y a trois habitants du quartier des Pradettes qui avaient proposé trois idées qui étaient assez proches. Un jardin collectif, un jardin de biodiversité là, pour sensibiliser aux questions d'environnement, et puis l'installation d'une ferme maraîchère. La mairie a retenu une de ces trois idées, le jardin collectif, et l'a soumis au vote des habitants de Toulouse. Donc le projet, il est arrivé, il y avait plein de projets sur Toulouse. Donc il y a 3 ans, ce projet-là de jardin collectif était déjà arrivé, le 5e dans les plus votés par les habitants de Toulouse. Donc cette partie-là a été validée en 2019. Par contre, les habitants et les associations du quartier ont dit bah « ouais, mais nous, les deux autres idées, elles nous semblent importantes, donc on va continuer à agir pour les mettre en œuvre ». Donc, ça fait depuis 3 ans, c'est venu grâce à ça. Et qu'est-ce qui avait motivé ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est la mairie, elle donne plein de permis de construire et ça construit partout. On se dit, mais il n'y a plus que cet espace-là qui appartient à la mairie. Le reste, c'est privé. C'est des terrains privés, donc on ne peut rien faire. On ne peut pas décider à la place des propriétaires. Mais au moins, là, comme c'est un terrain qui appartient à la mairie, donc aux habitants, on dit, ce terrain-là, il faut le garder pour des projets collectifs. Et il ne faut pas le vendre à des promoteurs qui vont se faire de l'argent là-dessus, et puis que nous, après, on n'a plus d'espace pour faire des équipements ou des projets pour les habitants. Donc, c'est ça qui avait motivé les 3 habitants de faire ces propositions-là. Et puis, il y a 3 ans, on commençait à me parler un peu de la crise climatique.
Avec quelle association travaillez-vous ?
Dans les associations avec lesquelles on travaille, il y en a plusieurs catégories. Il y a des associations qui défendent un peu les questions, on appelle ça des associations écologiques, là, qui défendent l'environnement, la biodiversité, dessus. Il y a des associations avec lesquelles aussi on travaille qui sont des associations solidaires. Par exemple, quand je parlais des paniers alimentaires solidaires, de faire de la solidarité, ben, il y a 2 associations. Il y en a une qui est dans le quartier, qui s'appelle le Pavé, qui nous aide dans ce projet-là. Et puis, il y a une autre association qui fait du secours alimentaire, qui nous a aidés pour le montage du dossier de ce projet-là. Donc, soit des associations qui sont pour la solidarité, soit des associations qui sont pour la défense de l'environnement, du climat, de la biodiversité, qui nous aident. C'est surtout ces associations-là. Et puis, des associations un peu solidaires qui trouvent que tout ce qu'on crée comme activité, si on crée une entreprise, ça peut pas être comme seul but de se faire de l'argent pour ceux qui l'ont créé. Qui dit, il faut que quand on crée une entreprise, ça rendre des services qui soient utiles pour les gens. Et pas simplement que ça profite à quelques-uns qui vont se faire de l'argent, même si ce qui est produit, c'est inutile ou nuisible pour la société. Donc nous, on essaye que, par exemple, la ferme maraîchère, ça va créer 2 emplois, mais ce n'est pas pour que 2 personnes s'enrichissent, grossissent. C'est pour qu'ils fassent une activité de produire des légumes de qualité pour que les gens du quartier mangent des choses de qualité. Donc on dit ça, c'est des emplois intéressants, c'est des activités intéressantes parce que la finalité, elle n'est pas que se faire de l'argent au détriment de tout le monde, quoi.
Mais vous ne pensez pas que si vous faites une ferme maraîchère, comme dites-vous, avec les véhicules et tout, ça ne va pas nuire sur les légumes ou les fruits?
Alors, ça pourrait nuire dans les légumes, mais les gens qui ont des jardins chez eux, c'est la quantité de pollution qui peut être à un moment donné nuisible. Là, on a travaillé avec des organismes qui font des légumes biologiques et qui, quand ils regardent, ça veut dire que s'il y avait trop de pollution, ils nous auraient dit bah, c'est problématique. Là, on a juste une route qui passe devant, c'est le chemin de Borde Blanche. C'est une petite route, donc ça bouchonne vite parce qu'elle est petite. C'est pas une 2 voies, c'est pas une rocade. Donc on n'a pas l'inquiétude de dire, voilà, il y aura des légumes qui seront pollués par la pollution automobile. Par contre, votre question sur la pollution, c'est une préoccupation qu'on a parce que quand on permet à des promoteurs de construire plein d'immeubles, mais qu'on construit pas à côté les transports en commun, et que ça oblige les gens à prendre de la voiture, ou parce qu'il n'y a pas de piste cyclable de sécurité. Le chemin de Borde Blanche, si vous le connaissez, il y a une piste cyclable, elle est toute petite avec plein de poteaux. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se croiser, on ne peut pas se doubler, et puis sans arrêt, quand il y a des passages où c'est bloqué. Donc ça n'encourage pas les gens à utiliser le vélo. Ils n'ont pas augmenté, avec tous les logements qu'ils ont faits, ils n'ont pas augmenté le nombre de bus, donc ça oblige les gens à prendre la voiture. Donc on dit ça va pas dans les quartiers. Si vous construisez des immeubles, avant il faut prévoir les transports en commun, les pistes cyclables, pour que ça n'oblige pas les gens à avoir de plus en plus de circulation en voiture. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux mairies, pas qu'à la mairie de Toulouse. Il y a plein de mairies qui ont du mal à entendre qu'aujourd'hui, pour les questions de pollution, il faut faire des grandes pistes cyclables. Ceux qui habitent aux arènes... Là, j'avais entendu quelqu'un habiter aux arènes. Si vous voulez passer la rocade à la Sépière, C'est en vélo, c'est un tourniquet, il faut descendre, etc. On ne peut pas se croiser, ça n'encourage pas. Et si on le passe par-dessus la rocade, avec les entrées et sorties de la rocade, c'est dangereux en vélo. Enfin, on ne se sent pas en sécurité. Et les parents qui ont des enfants, ils n'ont pas envie que leur enfant traverse la rocade dessus. Donc on se dit, ça fait des années qu'on dit à la mairie, mais il faut faire une passerelle large, sécurisée pour que... Voilà, qu'on puisse passer en vélo ou à pied sans risquer de se faire écraser et qu'on ne soit plus obligé dans ces cas-là de prendre la voiture. Parce que si c'est une petite distance, les gens accepteront de prendre la voiture. Et s'il y a davantage de bus les week-ends, la nuit par exemple, en soirée, on n'est pas obligé de prendre la voiture.
Qui peut participer à vos actions ?
Tout le monde. Il y a une marche de soutien au projet samedi qui vient, là, samedi 26 mars. Et on invite tous les habitants du quartier ou d'autres quartiers de Toulouse. Donc ça veut dire que si quelqu'un trouve le projet bien, il peut venir le soutenir comme ça, en participant à nos actions, à nos événements, comme cette manifestation de samedi. Il y a des gens qui adhèrent en soutien. Je vous disais, on a des adhérents qui sont des membres actifs qui participent pour mettre en œuvre les actions. Puis il y en a d'autres qui nous soutiennent, donc ils nous donnent une adhésion. Donc là, c'est à partir de 5 euros pour l'année, mais c'est pour soutenir, pour qu'on mène des actions. Donc ça, c'est tout le monde. Et vous, quand on le fait, je vous disais, quand on regarde, en se présentant sur les questions d'âge, hein, moi, je suis dans une génération où dans 20 ans, peut-être je serai plus vivant. Vous, on sait que les questions de climat aujourd'hui, quand les scientifiques alertent sur l'évolution et le réchauffement du climat, ils disent, mais à la fin du siècle, donc dans 30 ans, dans 20 ans, même déjà on commence à avoir des événements difficiles, mais on dit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va avoir des catastrophes naturelles qui vont se répéter. Les gens qui font des études sur les canicules, les périodes de forte chaleur l'été dans des villes comme Toulouse, dans des quartiers comme celui qu'on habite, ou comme la Rainerie, ou comme Belfort. Alors Rainerie, il y a le lac, qui est quelque chose qui rafraîchit à côté. Mais quand il n'y a pas d'espace vert, ça va être très, très difficile, parce que quand ils disent l'augmentation de la température, 1,5 degré, et ça sera plus qu'un degré 5, ils disent ça sera au moins 2 degrés d'augmentation, ils disent c'est une moyenne, et ça comprend la température des océans, qui augmente moins vite que la température de la Terre. Et en fonction d'où on habite sur Terre, il y a des endroits, ça sera beaucoup plus que 2 degrés, et quand c'est une moyenne, ça veut dire que sur les périodes de l'été, on aura des fortes chaleurs, et on avait eu il y a quelques années une canicule importante où il y avait eu des milliers de gens qui étaient morts en France à cause des fortes chaleurs, et on se dit, là, il faut vraiment que tous les citoyens, tous les habitants se disent que si on fait rien, ça va être de plus en plus dur pour les habitants. Et certains pays déjà sont concernés par le réchauffement climatique. Il y en a qui savent que quand la Terre se réchauffe, ça veut dire que les pôles glaciers fondent. Et donc, il y a une augmentation du niveau de la mer. Donc, il y a tous ceux qui habitent dans des îles, dans certaines régions du monde, savent qu'ils vont être submergés. Donc, ils vont être obligés de quitter leur pays. Déjà, en France, sur le littoral, il y a des communes qui se disent, dans 20 ans, il y a une partie de nos villes qui vont être attaquées par l'océan. Donc, il va falloir qu'on repousse ça. Donc, tous ces drames-là, aujourd'hui, il y a des décideurs qui pensent que, on a encore le temps. Et tous les scientifiques, ils disent, non, il faut décider tout de suite des mesures. Donc, ça veut dire sur des projets comme le nôtre ou d'autres projets, vous pouvez apporter votre aide, vous pouvez vous impliquer dans ces projets-là et il y a vraiment de l'enjeu pour vous parce que vous allez subir les conséquences de ce qui se projette. Hein.
Pourquoi militez-vous pour une agriculture locale et urbaine ?
Local, c'est les scientifiques ils étudient qu'est-ce qui cause le réchauffement climatique. Donc ils regardent dans toutes les activités des humains dans le monde, qu'est-ce qui contribue à réchauffer la planète. Tout à l'heure, quand on parlait de pollution, l'alimentation qu'on mange, des fois, elle est produite très loin. Et donc, elle circule par des moyens de transport. Donc, il y a de la pollution qui vient réchauffer le climat. Les gens, quand ils produisent quelque chose puis qu'ils le vendent à des gens qui sont à 1000 km, ils ont des fois moins le souci de qualité. Alors que si vous achetez un maraîcher qui est à côté de chez vous, lui, si jamais ses produits, c'est pas de bonne qualité, vous allez lui dire, et puis il sait que dans ces cas-là, il va pas continuer à vendre longtemps. Donc pour cette double raison du local, ça veut dire quand on achète quelque chose un produit à quelqu'un qui est proche de chez nous, qu'on connaît, et que c'est lui qui le fait, il va tenter à faire des choses de meilleure qualité, à la fois parce que s'il le fait pas, il va perdre sa clientèle, et puis à la fois, ça lui fait plaisir que quand les gens viennent le voir, on dit « Ah, ce qu'on vous a acheté hier, c'était bon, on a bien apprécié », donc ça fait plaisir de faire quelque chose de qualité. Et puis, donc, il n'y a pas le transport, donc ça réduit des éléments de pollution qui réchauffent le climat. Donc, et pourquoi urbain ? Bah justement, c'est que dans les villes, c'est là qu'il y a le moins de... ça se comprend, c'est logique, il y a moins de fermes, de maraîchers, d'agriculteurs. Ce qui n'était pas le cas avant, où à côté des villes, il y avait tout le temps des jardins et des agriculteurs. Le quartier des Pradettes, là, le chemin Borde Blanche, ça veut dire ferme blanche. Avant, c'était des fermes qui étaient là. Donc, c'était à côté quand même de la ville. Il n'y avait pas encore d'habitants sur le quartier des Pradettes, mais il y avait les habitants juste à l'entrée de la ville de Toulouse. Donc, quand on dit, si on fait des fermes dans la ville, ça permet à des enfants, par exemple, de voir comment ça pousse. Alors que des fois, quand on va dans des grandes surfaces, on peut acheter des tomates toute l'année. Mais les tomates, si on les fait dans notre jardin ici, on aura des tomates que l'été. Ou alors, si on en a toute l'année, ça veut dire soit elles viennent de très loin, il y a de la pollution, soit on les fabrique sous des serres qu'on fait chauffer, donc on consomme de l'énergie. Donc, si on consomme beaucoup d'énergie pour chauffer les tomates, ça recrée du réchauffement climatique. Donc, quand on a un jardin ou une ferme à côté de chez soi, donc dans tous les quartiers, nous, on pense que dans tous les quartiers, il faudrait qu'il y ait des fermes maraîchères qui produisent des légumes pour que les enfants voient comment ça pousse, ne demandent pas à leurs parents « je voudrais manger au mois de décembre des tomates ». Les parents, ils disent « non, tu vois bien que chez le maraîcher, il n'y en a pas, c'est pas la saison ». On dira « c'est pas la saison » dessus. Donc ça nous apprend à remanger des légumes de saison dessus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des choses en milieu urbain. Parce que la mairie, elle nous dit « avec votre petite ferme, vous n'allez pas nourrir tous les habitants ». On dit « oui, c'est sûr qu'avec une petite ferme de deux maraîchers, on ne va pas nourrir les 11 000 habitants du quartier des Pradettes ». Par contre, les 11 000 habitants du quartier des Pradettes, tout à coup, ils vont revoir comment ça pousse, quand ça pousse, les légumes, qu'est-ce qu'on peut avoir à telle saison, comment on peut cultiver des choses sans mettre de produits chimiques, etc. Est-ce que ça pousse bien Donc ça permettra à tout le monde de savoir ça. J'habitais dans une autre région, moi, en Normandie, avant de venir à Toulouse. J'avais des amis qui avaient une ferme pédagogique en campagne et ils accueillaient des enfants de banlieue parisienne. Et les enfants de banlieue parisienne, quand ils arrivaient à la ferme, ils touchaient les pierres de la ferme parce qu'ils n'avaient jamais touché de pierre. Ils touchaient que du béton. Ils n'avaient jamais vu une maison en pierre. Et donc, ils touchaient parce que c'était une sensation nouvelle. Donc, sur le jardin pédagogique, on se dit, ou dans la ferme, c'est aussi comme les enfants, là, qui viennent dans le jardin, ils mettent les mains dans la terre. Il y a des étudiants qui sont dans le lycée, là, qui vont fabriquer des serres pédagogiques. Donc, il y a une serre qu'ils font, il y a 4 bacs. Donc, ils vont planter des radis. Donc, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, on la met là, puis 3 semaines. Et ils disent, comme ça, les enfants, ils vont voir les radis, comment ça pousse en un mois dessus. Donc, le fait de le faire dans un quartier, dans les villes, c'est pour nous réapprendre ce que... mes grands-parents, ils avaient des jardins, ils savaient tous comment ça pousse. Enfin, ils mangeaient des légumes de saison. Donc, c'est ça l'enjeu, que ce soit urbain.
Quel projet souhaitez-vous développer à l'avenir ?
Je disais qu'on présentait le dossier à la mairie le 8 avril. Soit la mairie, elle refuse le projet au bout de 3 ans, alors qu'il y a des centaines d'habitants du quartier qui disent « nous, on veut ce projet-là ». Il y a plein d'associations, on a des financements, on sait comment on peut le tester pendant 3 ans. Si la mairie nous dit non, ça veut dire que ils vont construire des immeubles, que notre projet et notre association, elle a perdu dessus. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, un certain nombre d'habitants, parce que je pense qu'on sera très en colère si le projet est pas possible et que la mairie ne l'autorise pas de le poursuivre. Si inversement, elle nous prête le terrain pendant 3 ans pour qu'on teste la ferme, les jardins, etc., pendant 3 ans, déjà, on va avoir une grosse activité de mettre tout en œuvre, de faire que ça réussisse bien et puis de trouver les conditions pour que ça puisse devenir plus durable, donc que ça dure après les 3 ans. Donc, dans ces 3 ans-là, il y aura peut-être d'autres actions qui vont venir renforcer ce projet-là. Il y a des gens qui ont des idées de dire qu'est-ce qu'on peut faire sur la ferme, sur le jardin. Mais on aura déjà beaucoup de choses à faire pour le tester, quoi.
Ok. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes ?
Enfin, j'ai pas plus de conseils à donner aux jeunes qu'à des adultes. Je pense qu'important, c'est de donner de l'information sur... quand on parle de crise climatique, ça veut dire quoi ? Donc, que tout le monde sache un peu sur... c'est quoi les conséquences qui vont nous arriver, qui arrivent déjà. C'est par exemple, quand on a commencé à travailler sur la question de ferme, on a regardé des études sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce que c'est bon ou pas pour notre santé ? Puis on s'aperçoit qu'en France, pour une très grande majorité d'entre nous, on a un équilibre alimentaire qui nous rend malade, qui produit de l'obésité, qui produit du diabète, qui produit des maladies cardiovasculaires, qui produit plein de maladies et certaines qui sont des maladies mortelles. Et ceux qui produisent les aliments, ils le savent. Ça, parce qu'ils ont des chercheurs dans leur usine. Ils savent qu'ils nous vendent de la nourriture qui est pas bonne pour notre santé. Et ce que nous disent les études, ils disent, il faudrait qu'on mange 2 à 3 fois plus de légumes, 2 à 3 fois moins de viande, surtout plus de produits transformés qui sont déjà des plats préparés. Parce que ça, les plats préparés, c'est ce qui est le plus mauvais pour la santé. Donc on se dit, c'est plutôt ça. C'est pas de donner des conseils, c'est de dire, il faut que ces informations que les grandes entreprises connaissent, qu'on les ait, nous, en connaissant, et puis qu'on puisse avoir le choix après, que les habitants ils puissent avoir le choix de dire comment je peux avoir accès à une alimentation de qualité, et puis comment on arrête des activités qui sont en train de réchauffer le climat et qui vont rendre la vie de plus en plus difficile ou impossible dans certaines régions du globe, et puis difficile partout, quoi. Donc c'est de dire, on donne de l'information, puis après on fait confiance, qu'on soit jeune ou pas jeune. Si on a toutes les informations et qu'on a le choix, certainement on aura envie de faire des choses moins nuisibles, mieux pour notre santé, plus solidaires. Donc il faut avoir l'information. Et nous, pendant les 3 ans, on a découvert plein d'informations qu'on n'avait pas et on se disait, maintenant qu'on le sait, on est d'autant plus motivé à dire il faut des projets comme ça parce qu'on sait que c'est meilleur pour notre santé, que c'est meilleur pour la planète. Dessus. Et tous ceux qui le découvrent, ils deviennent de plus en plus convaincus. Donc, c'est pas des conseils à vous, il faut que l'information, elle soit diffusée, quoi. Et là, elle est pas bien diffusée. Enfin, les grandes entreprises font tout pour que les informations, elles soient pas diffusées, parce qu'ils vont perdre des marchés économiques dessus, quoi.
Merci beaucoup pour d'être venu pour nous expliquer votre projet.
Et merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci à vous surtout.
Bonjour Logan, peux-tu nous présenter le rôle des éco-délégués au lycée ?
Alors notre principal rôle d'éco-délégué est de faire entendre aux autres qu'il faut préserver et respecter l'environnement, car notre futur dépend de la manière dont nous traiterons la planète.
Quelle action menez-vous ?
Alors, on fait des réunions entre éco-délégués pour parler un peu de l'environnement au lycée. On parle de ce qu'on pourrait faire, on parle de solutions qu'on pourrait entamer pour la planète.
Et vous avez déjà des idées d'actions que vous pouvez mener, vous, dans le lycée ?
Oui, faire comme des sortes de jardins dans le lycée, un peu partout, quoi.
Si vous voulez plus de renseignements, rendez-vous sur le site naturepradette.org.
Bye bye, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse pour Média Commun Occitanie. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Retrouvez toutes nos émissions sur ondescourtes.org, la web radio du libre.